donc, vous voyez la page titre, je pense, donc Dieu existe. En bas, il y a « Créons l'homme à notre image et ressemblance ». Alors, je ne commande pas. J'espère que, en poursuivant, eh bien, vous verrez petit à petit le rapport. Quelques citations tirées des psaumes, d'une part, et puis, je ne sais pas si vous connaissez Saint John Henry Newman. Voilà, toutes les trois disent bien que c'est dans les profondeurs de la conscience que Dieu nous est connu, enfin, que Dieu nous serait connu si on ne s'efforçait pas de l'oublier en permanence. Voilà. Donc, mon cœur a exhalé le Verbe qui est bon. Et... Alors, j'attire tout particulièrement votre attention sur la deuxième citation, qui va être un petit peu un fil directeur pour une bonne partie de ce que je vais dire. C'est « Ô Seigneur, j'ai tiré de moi une merveilleuse connaissance de ce que vous êtes, à laquelle je ne puis cependant atteindre. Hein ». C'est une sorte de paradoxe. Hein je précise tout de suite... C'est donc ce psaume 138, verset 6, c'est la traduction que Bossuet en a donnée dans une lettre qu'il a écrite au pape sur l'instruction du dauphin, fils de Louis XIV. Une très belle traduction, et bon, dommage qu'elle ne soit pas reprise ailleurs. Voilà. Voilà, une petite introduction. Le motif, c'est de chercher Dieu là où il est. Bon, je pense par exemple à des scientifiques qui s'occupent de la nature. Ils ne trouvent pas Dieu dans la nature, alors ils en concluent qu'il n'y a pas de Dieu. Ben, je suis désolé, mais s'ils veulent le chercher, c'est surtout pas dans la nature qu'il faut le chercher, puisqu'il est au-dessus. Bon, donc il n'est pas dedans. Une condition requise. J'espère que vous êtes tous venus ici avec votre conscience, que vous ne l'avez pas laissée chez vous. C'est tout ce que je vous demande. Hein. Essayez de travailler sur la conscience. Enfin, de partir de là. Et donc, en prenant ce point de départ de la conscience, donc de la conscience humaine, eh bien, j'avertis tout de suite, comme vous l'a dit Gaëtan, hein, ce chemin que nous allons suivre est strictement philosophique, c'est force d'être rationnel, donc. Hein. Et même, c'est pourquoi, de préférence au mot « Dieu », bien que je ne l'éviterai pas toujours, mais de préférence au mot « Dieu », j'utiliserai plutôt les termes « principe ». Alors, « principe », conformément au premier mot de Genèse, hein, et d'autre part au premier mot de l'Évangile de Jean, qui dit, le texte grec c'est « en arché », c'est-à-dire au principe ou au commencement, hein, puisque arché, comme dans architecture, archidiacre, ce que vous voudrez, bien, c'est celui qui est au principe, le commencement, le premier. Voilà, donc j'utiliserai ce terme principe, et d'autre part aussi être. Là, j'avertis aussi immédiatement être ou être infini. Dans le langage courant, le mot être est souvent, sert souvent à désigner l'être humain. Alors, en philosophie, pas du tout. L'être, c'est l'être de tout ce qui est, donc pas seulement les êtres humains, c'est l'être qui est cause de tout ce qui est. Enfin bon, et là encore, conformément à ce qu'on trouve dans Exode, lorsque au chapitre 3, Dieu se présente à Moïse, hein, il se présente comme celui qui est. Voilà. Donc, les philosophes ont beaucoup travaillé là-dessus. Voilà, alors par quel chemin allons-nous passer? Les deux premières parties poseront la... Enfin, reprendrons cette question qu'on trouve dans le psaume 143, au, verset 3. Qui est l'homme pour que tu te fasses connaître de lui ? Qui est l'homme pour que tu te fasses connaître de lui ? Alors, cette traduction, c'est celle de la Vulgate ou de la Septante. Dans les autres traductions, ce verset est traduit comme dans le psaume numéro 8, je ne sais plus quel verset. Hein, et c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas cette différence. Voilà. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Mais que pour que tu penses à lui, ce n'est pas pour que tu te fasses connaître de lui. Et voilà. Bon. Voilà, donc le. Et c'est cette question que pose le psalmiste, eh bien, je la verrai en deux parties. La première partie, au travers de la première partie du verset 138 du psaume que j'ai traduit par Bossuet. « Ô Seigneur, j'ai tiré de moi une merveilleuse connaissance de ce que vous êtes. » Tiré de moi, hein, de ma conscience. Et la deuxième partie traitera de la suite de ce verset, hein, connaissance à laquelle je ne puis cependant atteindre. Voilà, pour bien comprendre ce paradoxe. Et puis ensuite, ça nous conduira à voir que. C'est effectivement, si on peut atteindre, c'est que c'est Dieu lui-même qui, c'est l'être infini qui se fait connaître de l'homme. Hein, et comment ? Eh bien, justement, parce qu'il est Trinité. Et nous terminerons alors assez rapidement. Je crains de devoir un petit peu presser le mouvement à ce moment-là, mais c'est pas grave. Le plus important, ce sont les trois premières parties sur la question de l'obstacle. Qu'est-ce qui obstrue cette percée d'infini dans notre conscience à laquelle finalement nous ne prêtons pas attention. Voilà donc la première partie, et j'affiche de nouveau cette première partie du verset 6 du psaume 138. Bon, je vais essayer d'aller assez rapidement et clairement. Toute cette partie va montrer comment l'infini est, pour ainsi dire, la tissure de l'intelligence, de la conscience, pour parler finalement de la conscience. Alors, à commencer par une première chose, l'idée. L'âme humaine est configurée à l'infini de l'idée. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par idée ? C'est pas l'opinion, parce que souvent on dit on a une idée, bon, une opinion sur. Non, l'idée au sens traditionnellement philosophique depuis Platon, hein, c'est la notion d'une chose, si vous voulez. Hein, je prends tout de suite un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Hein, c'est par exemple l'idée d'homme. C'est-à-dire ce qui le définit, ce qui définit son essence. Et quand nous disons « homme », et je ne veux pas aller plus loin sur les définitions, mais quand vous employez le nom commun, « homme », eh bien, vous parlez de quoi ? Vous parlez non seulement de l'homme au sens de tous les hommes qui sont actuellement, mais vous parlez aussi de tous les hommes qui ont été, et même tous ceux qui seront. C'est-à-dire potentiellement infini. Hein ? Autrement dit, quand nous utilisons un nom commun, nous énonçons une idée, eh bien, c'est sur fond d'infini. Hein ? On s'en rend pas compte. On fait ça tout naturellement, et pourtant. Deuxième point. Ce qui peut paraître étonnant, mais ne l'est pas tant que ça, c'est que c'est bien dans la conscience, c'est bien l'infini qui est mesure du fini et non pas le fini qui est mesure de l'infini. J'explique. On aurait tendance à croire, parce que vous avez fait un petit peu de mathématiques, tous, plus ou moins, bon, comme moi, que l'infini, bah, c'est l'addition des unités, de l'unité, l'addition à, bon, indéfini, 1 plus 1 plus 1, et on a l'impression que l'infini se construit comme ça. Mais pas du tout. Pour avoir l'idée d'additionner l'unité à l'unité indéfiniment, je vais essayer de ne pas faire tomber le micro, eh bien, il faut pour cela déjà avoir la notion d'infini en soi. Je dirais que c'est parce que nous avons une pré-compréhension, si je puis dire, de l'infini, que nous pouvons avoir l'idée de toutes sortes d'infinités possibles, potentielles, je dirais. Hein. Je dis potentielles parce que, vous voyez, 1 plus 1 plus 1, en fait, on voit indéfiniment, jamais on aboutira. Jamais on... Donc c'est potentiel, c'est de l'infini possible. Et donc voilà. Et ce qui fait que dans notre conscience, finalement, il y a, on va dire, un infini actuel qui est déjà là. Actuel, c'est-à-dire en acte, qui est déjà là, qui est constitutif de notre conscience, qui fait que nous pouvons concevoir toutes sortes d'infinités possibles. Je pense à tous les nombres. Alors, je peux parler du mathématicien Cantor, qui est le théoricien des ensembles, hein, et donc de l'infini en mathématiques. Je crois que c'est avec lui que la notion d'infini mathématique devient un concept vraiment mathématique. Eh bien, Cantor, il a toujours pensé que tous ces infinis des nombres ne sont que des infinis relatifs et qu'ils dépendent tous d'un infini absolu, de l'infini absolu. Alors pour lui, l'infini absolu, c'est Dieu. C'est, voilà, c'est pas... Troisième expérience que je vous demande de faire encore sur votre conscience, n'est-ce pas, puisqu'à chaque fois, c'est de cela qu'il s'agit, c'est que lorsque nous pensons le monde, l'univers, le monde, l'univers, c'est-à-dire la totalité de ce qui est, hein, la totalité de ce qui est, si grande soit-elle, eh bien, c'est comme si nous étions en dehors. C'est comme si nous étions en dehors. Ah, peut-être vous pensez tout de suite à cette parole qui est dans l'évangile de Saint Jean, hein, « dans le monde, mais pas du monde ». Rien de plus vrai. Lorsque nous pensons, j'avais fait une différence il y a quelques années pour expliquer ça. Oui, le petit mulot qui est dans le champ de blé, hein, bah lui, il ne voit que des brins de blé qui poussent là, et il essaie de grimper pour attraper les. Et l'homme, lui, et c'est tout. Hein, pour lui, il n'y a pas de champ de blé. L'homme, lui, il peut être perdu dans le champ de blé, il peut être perdu dans la forêt, mais il sait qu'il est dans une forêt. C'est comme s'il était, il sait qu'il est dans une totalité qui est une forêt, et au-delà de quoi, il y a autre chose. Voilà. Il se porte tout de suite au-delà. Bon. Donc, encore une illustration de de l'infinité qui structure notre âme, qui fait notre âme une conscience, finalement, c'est alors, là encore, j'ai oublié, je suis désolé. C'est le besoin d'approfondissement. Le besoin d'approfondissement, le fait que nous approfondissions. Je prends l'exemple, le premier exemple qui me paraît le plus significatif, c'est l'enfant. L'enfant qui vous demande pourquoi. Vous lui répondez, et il demande le pourquoi de la réponse. Et puis, à ce petit jeu, ça l'accuse beaucoup, mais je vous assure que, contrairement à ce qui se dit, moi je crois que les enfants n'ont pas beaucoup d'imagination, les petits, mais une sacrée rationalité. Hein. Et c'est dommage que par la suite ça se perde, parce que ça ferait d'eux vraiment de grands penseurs et de grands philosophes. Ils ont ce besoin du pourquoi, de l'approfondissement, d'aller au fond des choses, et pour aller jusqu'au fondement, jusqu'à l'abîme. Hein, l'abîme, ça veut dire le sans fond, hein, le fondement qui lui-même n'a plus besoin d'être fondé. Hein. Bon, et ben ils sont prêts pour ça. Ils sont prêts pour devenir de grands philosophes et de grands théologiens aussi par la même occasion. Bon. Alors, tout cela pour... je vais trop vite. Tiens. Donc, l'âme humaine, elle est structurée par l'infini, c'est-à-dire... l'illimitation, hein, on le voit bien avec ce pourquoi du pourquoi, etc., mais également dans tous les autres exemples que j'ai évoqués, cette illimitation de prise de champ. L'âme humaine est toujours, la conscience est toujours prise de champ par rapport à ce dont elle est consciente, par rapport aux choses qui se présentent. Hein. Non seulement... elle a les choses présentes, mais elle est aussi en même temps présente à elle-même, et elle prend champ. Et ce qu'on peut appeler réflexivité, hein, je prends réflexivité, je ne dis pas réflexion, le fait, l'acte de réfléchir intellectuellement, mais bien réflexivité, c'est-à-dire le fait que la conscience soit toujours comme à distance d'elle-même. La conscience, elle est non seulement consciente de... chose, par exemple, vous êtes conscient d'entendre mon babil, d'accord, et vous êtes aussi en même temps conscient d'en être conscient. Et si vous y êtes attentif, vous êtes même conscient d'être conscient d'en être conscient. Et ainsi de suite. Et voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et cette prise de champ, et, je ne vais pas développer ça, mais c'est ça, d'abord... la liberté, voilà. C'est le caractère de qu'a notre conscience, justement, de prendre du champ par rapport à elle-même, c'est le fait fondamental de la liberté. Voilà. Donc, l'âme consiste, puisqu'elle est cette prise de champ par rapport à elle-même, il faut le dire, hein, l'âme consiste dans quoi ? L'âme humaine, hein, consiste dans quoi ? Elle consiste dans la conscience de soi. Quand je dis conscience de soi, je ne dis pas conscience de l'ego psychologique, etc. C'est pas de ça qu'il s'agit. Elle est consciente d'elle-même. Elle est consciente d'elle-même. La conscience est consciente d'être consciente. D'accord ? Voilà. Et donc, comme ce qu'on peut imaginer par ces fractales. Alors là, on a une fractale un petit peu compliquée. Je ne saurais même pas la faire, ce n'est pas moi qui l'ai faite, j'ai trouvé sur Internet. Mais vous voyez où c'est toujours la même figure qui se répète indéfiniment. Voilà. Voilà, moi j'en ai réalisé une un petit peu moins compliquée avec l'appareil photographique de mon ordinateur et un miroir devant. Et vous voyez que la conscience est comme un miroir pour elle-même, en quelque sorte. C'est une sorte de miroir pour elle-même. Et dire que la conscience est fondamentalement conscience de soi, alors ça c'est quelque chose que les anciens n'avaient pas trouvé, et c'est quelque chose, et c'est certainement, je pense, à Saint-Augustin qu'on doit cette intuition absolument révolutionnaire, hein, parce qu'il dit... les anciens grecs pensaient que pour se connaître soi-même, la conscience devait se connaître par l'intermédiaire de l'autre, d'autrui. L'autrui étant un miroir pour la conscience. Or, pour me reconnaître dans un miroir, que ce soit le miroir d'autrui qui me renvoie mon image, eh bien, il faut que je me connaisse déjà moi-même. Je ne suis pas comme ce... j'ai évoqué ça hier soir déjà, et cette image me revient, parce qu'une fois j'ai vu un singe devant un miroir, et puis il était là en train de chercher derrière la figure qui se présentait dans ce miroir. Ben non. Le fait que je me reconnaisse dans le miroir, ça veut dire que je me connais avant de me voir dans le miroir. Je me connais, je sais que je suis moi, je sais que ma conscience est mienne avant de se refléter dans l'image que me renvoie l'autre. Voilà. Et c'est bien parce que je me connais moi-même préalablement que, du même coup, l'autre peut m'apprendre des choses sur moi en plus. Voilà. C'est... Donc je peux passer à la deuxième partie, j'espère que je ne vais pas trop déborder. Alors on arrive au paradoxe. Cette connaissance, cette science, hein, j'ai tiré de moi-même une merveilleuse science de ce que tu es, science à laquelle je ne puis cependant atteindre. Alors, c'est là vraiment Bossuet, dans cette traduction, il est tout à fait génial. Bien. Ce que nous dit ce passage-là, ce paradoxe, c'est que cette conscience que nous sommes, nous n'avons pas pu nous la donner nous-mêmes. D'accord ? Nous ne pouvons pas nous l'être donnée nous-mêmes. On a vu la conscience, peut-être j'aurais dû dire la conscience, l'esprit humain, hein, il est configuré à l'infini. Au fond, on peut dire que pour moi, l'infini et le spirituel, c'est synonyme. Quoi. L'infini, c'est le domaine du spirituel. Mais cela ne peut pas nous avoir été donné, nous ne pouvons pas nous être donné la conscience nous-mêmes. Pour s'être donné la conscience soi-même, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait avoir eu conscience d'en manquer. C'est-à-dire prendre déjà du recul par rapport à soi pour se rendre compte qu'on manque de conscience, ce qui est complètement absurde. Hein ? C'est contradictoire. Donc, on voit bien que la conscience humaine, elle est en l'homme quelque chose d'originaire, quelque chose qu'il a, mais qu'il ne s'est pas donné à lui-même. Un autre. Alors excusez-moi, j'oublie. Voilà. Donc on peut dire, conformément à ce que nous dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, hein, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Voilà. Et de fait, allons un petit peu plus loin. Non seulement l'homme ne peut pas s'être donné à lui-même sa conscience, mais il, dans la nature, dans le monde créé, on va dire, dans le monde créé, où il n'existe que des choses finies, que des êtres finis, eh bien, aucun être, rien de fini ne peut produire l'infini. On ne voit pas comment le plus petit pourrait produire ce qui le dépasse infiniment. Alors, de cela, il découle, de ces deux choses, hein, que l'humanité de l'homme est constituée d'une intime infinité dont l'origine et l'immensité ne peuvent pas venir de sa finitude. Je reprends la parole de Saint Jean que j'ai évoquée tout à l'heure. Hein, dans le monde, mais pas du monde. Alors j'ai accentué le « pas du monde », mais tout de même dans le monde. D'accord ? Bon. Donc, en tant que créature, nous sommes des êtres finis. Et donc, constitués d'une intime infinité dont l'origine et l'immensité ne peuvent pas venir de lui, hein, de sa propre finitude. Donc nous portons en nous quelque chose qui nous dépasse infiniment. Voilà. Et il faut y revenir et insister. L'infinité, on va dire divine, diffère de manière si absolue de la finitude de sa créature que la créature ne peut même pas y accéder par ses seules propres forces. nous serions bien incapables de l'idée même d'infini, hein, si nous ne la recevions de plus haut. Voilà. C'est le sens, j'ai mis cette citation latine qui est assez connue, hein, Credo quia absurdum, je crois, alors voilà comment c'est traduit habituellement. C'est d'ailleurs bien traduit, mais encore faut-il comprendre le sens des termes. Je crois parce que c'est absurde. Alors, Tertullien, vous savez, ce n'est pas de ces esprits qui est prêt à croire n'importe quelle sottise pour la simple raison que c'est une sottise. Hein ? Alors, il faut peut-être chercher ailleurs. Absurdum. Tertullien, c'est un grand latiniste, il connaît l'étymologie des mots latins. Absurdum, c'est constitué de ab, de, et surdum, qui vient du verbe surgere, qui veut dire sourdre, surgir. Littéralement, ça veut dire je crois parce que cela surgit de soi-même. Je crois parce que cela ne vient pas de moi. Je crois parce que je ne l'ai pas moi-même fabriqué. Et c'est un peu ce qu'on dit, vous savez, quand on dit quelque chose qu'on tient vraiment pour vrai, et qu'on est en face de gens un petit peu, qui se montrent un petit peu sceptiques, mais enfin, je ne l'ai pas inventé. Ça ne vient pas de moi, je ne l'ai pas inventé. Eh bien, c'est ça qu'il faut entendre. Et de absurdum, là, il est la traduction d'un mot grec qui est vraiment très intéressant philosophiquement et théologiquement, on va dire. Hein, c'est akeiropoietos, qui signifie « non fait de main d'homme, non fait par l'homme hein, », ce qui n'a pas été fait par l'homme. Donc, nous portons en nous quelque chose qui, décidément, n'a pas été fait par nous, que nous n'avons pas produit, que nous n'avons même pas produit par des concepts, etc. Hein. Ce qui coupe court, si vous voulez, à la critique du philosophe allemand Feuerbach, qui dit bon, que c'est finalement Dieu, c'est une hypostase de l'homme, c'est l'homme qui a créé Dieu à son image et à sa ressemblance. Hein. Non. Ce Dieu-là, enfin oui, ça s'appelle des idoles, mais le veau d'or. Mais Dieu, si on pense vraiment Dieu comme étant Dieu, eh bien, ça n'est pas quelque chose qu'on a soi-même produit, créé. Voilà, ce qui me conduit à passer à une nouvelle question, hein, parce que dans ces deux premières parties, on a posé la question du psaume 143, hein, « Qui est l'homme pour que tu te fasses connaître de lui ?» Eh bien, maintenant, bon, on a vu un petit peu qui est l'homme, mais maintenant, la question qui se pose, qui est Dieu pour qu'il se fasse connaître de sa créature ? Brièvement cette belle parole qu'on trouve dans la seconde lettre aux Corinthiens. Il n'y a que oui en lui. Alors, pour commencer, je passerai, bon, je vais essayer d'être très rapide là-dessus, mais sur des difficultés dont nous sommes très malheureusement très redevables, sur des difficultés causées par l'ontologie moderne, alors je dis moderne, c'est-à-dire depuis le XIIIe siècle, et précisément depuis juste après la mort des grands saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure. On ne peut pas les rendre coupables de cela, mais juste après, il y a un certain franciscain... Don Scott, bienheureux Francis Don Scott, mais qui n'a jamais été canonisé, et qui est un peu à l'origine de cette ontologie. Alors ontologie, ça veut dire science de l'être, hein, science, cette partie de la philosophie qui s'occupe de l'être. Bon. Et cette ontologie, elle consiste en quoi? Elle consiste à faire de l'être un concept purement abstrait, vraiment le concept le plus abstrait qui soit. C'est-à-dire que l'être n'est plus autre chose que ce qu'il y a de commun à tout ce qui est, abstraction faite de ce qui les distingue. Abstraction faite de ce qui les distingue, c'est-à-dire de ce qui les définit. Autant dire que quand on a dit ça, on n'a plus rien à dire sur l'être. Hein ? On n'a plus rien à dire. Car c'est le concept le plus général et en même temps le plus vide de contenu. C'est ça l'abstraction. Non. Abstraire, ça veut dire soustraire. Donc quand on soustrait les déterminations des choses et qu'on on ne retient que ce qu'elles ont de commun, ben voilà, on obtient ça. Alors, cette manière de procéder, elle pose quand même des problèmes. D'abord, elle inverse la relation de causalité parce que, vous voyez bien, en procédant par abstraction des réalités, hein, en ne retenant finalement que ce qu'il y a d'archi-commun, eh bien, elle dérive le concept d'être de ces mêmes réalités. Elle dérive l'être des créatures. Et pourtant, il faudrait bien que l'être soit premier. Et continuant d'affirmer quand même la primauté de l'être, du même coup, on se demande d'où cet être vide de contenu va tirer la ressource de créer tout l'univers. Donc voilà où on en est, et puis je peux vous dire que notre siècle abonde de gens qui s'intéressent à Duns Scott et qui repuisent, parce que Heidegger l'a remis à l'honneur, etc. Bon, passons là-dessus. Voilà la difficulté. Or, il y a peut-être une autre manière de penser l'être, c'est d'abord de penser sa primauté absolue. L'être est absolument premier, et donc on ne peut pas le faire dériver des réalités qu'il a créées. L'être est premier, alors c'est simplement tout bêtement, comme répète souvent saint Augustin, pour penser il faut vivre, hein, et puis pour vivre il faut être. Donc l'être est vraiment ce qui est premier par rapport à toute chose. Hein. Et puis bon, bah, quand même, n'oublions pas la parole de Yahvé dans Exode, que j'ai déjà évoquée. Voilà. Et alors, comment le penser dans sa primauté, c'est-à-dire sans référence à aucune créature, à aucune chose? Ben écoutez, c'est pas tellement compliqué. L'être pur, si on le pense dans sa pureté, c'est donc l'être pur. L'être pur, donc tout l'être consiste à être. On n'a pas, j'ai peut-être pas dit grand-chose en disant ça. L'être pur dont tout l'être consiste à être, donc à être sans limite, sans aucune limite, sans aucune limite qui lui fasse écran à lui-même. D'accord ? Autrement dit, cet être pur exprime son être et il l'exprime en étant toute transparence à soi, toute présence à soi, et sans sortir de soi. Bref, l'être engendre sa propre image à l'intérieur de ce qu'on appelle le Fils, la sagesse, sa propre image, c'est-à-dire la connaissance de soi. L'être se connaît lui-même. et s'en sortir de soi, disais-je, c'est-à-dire dans une surabondance de « oui » de l'engendré à l'engendrant et de « oui » à l'engendrant, de l'engendrant à l'engendré. Et c'est dans cette unité, l'unité de son infinité, puisqu'il ne sort pas de lui, ce qu'on appelle la troisième personne de la Trinité, l'Esprit. Quand je dis ce « oui », vous allez faire le rapprochement quand même avec l'amour, parce que quand on vous dit une vérité que vous reconnaissez comme étant effectivement une vérité, il y a un terme qui le dit bien, c'est « donner son assentiment ». Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Deux et deux font quatre. Oui. Oui, c'est ça. Hein? Eh bien, là, vous imaginez, ce oui infini et réciproque de l'être avec son expression, c'est sa présence à soi, et de la présence à lui, à ce, l'être qu'il engendre. Et tout cela sans sortir de lui-même. Et une telle surabondance de oui, hein, d'assentiment, qu'il peut se transmettre. Il se transmet. Il faut... l'amour, il est fondamental. Hein, c'est par l'amour que l'être se transmet. Mais ce qu'on comprend, ce sur quoi je veux insister ici, c'est que Dieu soit Trinité, à la fois un et trois. Hein, Trinité, certains auteurs disent unitrine ou triunité, etc. Mais c'est un peu redondant puisque le mot Trinité, c'est le composé de tri et unité. C'est la contraction de tri et unité, donc ça dit bien. Hein, à la fois un seul, le même être, mais le même être qui se démultiplie indéfiniment, ou infiniment plus exactement, hein, qui est l'infini accompli, hein, pas en train de se faire, comme la numération, l'infini absolument accompli comme présence à soi et comme amour réciproque de lui et sa présence. Voilà. Et il faut bien un Dieu qui soit, un être qui soit si infiniment amoureux pour aimer même ce qui n'est pas lui, hein, au point même de le créer, au point même de lui donner son être. Voilà. Alors, revenons quand même à l'homme, parce que là, nous sommes passés dans des hauteurs. Donc, Voilà ce que reçoit l'homme dans sa conscience. L'homme est comme une percée de l'infini, puisque lui seul, dans la nature, est capable de cette infinité. Hein. Et ce qui correspond le mieux, effectivement, à la nature humaine, je dis, l'humilité structure l'être de l'homme. L'humilité structure l'être de l'homme. C'est-à-dire que nous sommes vraiment faits pour être voués à cette infinité qui est, je reprends les mots de saint Augustin dans les Confessions, dans mon âme plus intime que mon âme n'est à elle-même. Dans mon âme plus intime que mon âme n'est à elle-même, c'est cette infinité qui nous traverse, qui de part en part, qui structure complètement notre conscience et qui fait que nous sommes en rapport avec cette infinité que nous ne sommes pas. Nous sommes immédiatement mis en rapport avec cette infinité que, malgré tout, nous ne sommes pas, et qui nous fait âme. C'est-à-dire qu'en reconnaissant l'infinité qui est en nous, on se sent tout petit, forcément. Hein, et ça n'est pas tout à fait par hasard si le mot « homme », hein, et le mot « humilité » sont construits sur ce même radical, sur cette même racine qu'est « humus ». Nous autres glaiseux, Alors, petite exception quand même, parce que les femmes ne sont pas glaiseuses, elles sont tirées du cœur de l'homme. C'est l'homme qui est glaise, Sophie. Mais bon, je t'en dis pas plus. Voilà, donc il me semble avoir dit ce que je pouvais avoir à dire là-dessus. Alors, quel est l'obstacle à cette humilité ? C'est vrai que je reviens, excusez-moi, je reviens quand même sur l'humilité. C'est vraiment l'homme se réalise pleinement dans son humanité quand il est humble. Au fond, il y en a quand même un qui nous a montré ce que c'est que d'être un être humain parfait. Et vraiment, dans le monde où on vit, il fallait vraiment qu'il soit un dieu pour être un être humain parfait, parce que dans le monde humain, c'est difficile aux hommes de revenir à cette origine. Mais pensez à Adam, le premier homme avant la faute. Il était dans cette humilité parfaite, c'est-à-dire qu'il ne vivait pas pour lui, il était dans la joie de Dieu, dans la joie de l'être infini. Hein. Bon. Voilà. Alors, quel est l'obstacle ? Je laisse un petit peu cette parole de Matthieu qui, vraiment, est sublime. Or, je vous le dis, de toute parole sans fondement que les hommes auront proférée, ils rendront compte au jour du jugement. Bon, on peut lire ça comme étant un avertissement. Attention, tournez votre langue, je ne sais pas combien de fois, dans la bouche avant de parler. Mais ce qui est superbe dans cette parole, c'est que cette parole d'Évangile de Matthieu, elle exprime, au fond, elle n'exprime pas autre chose que l'exigence, une grande exigence de rationalité de la part de la pensée. Quand je dis rationalité, je ne suis pas en train de faire l'apologie d'un rationalisme, ça n'a rien à voir. Le rationalisme est irrationnel. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Juste une parenthèse pour vous dire, le rationalisme est irrationnel. Je commence à bafouiller. Pourquoi on peut dire ça ? Parce que le rationalisme pose la raison en premier. Elle fait de la raison le principe du principe qu'elle cherche. La contradiction, elle commence là. L'absurdité, elle commence là. La raison, elle est faite pour chercher le principe, justement le principe qui n'est pas elle, qui la dépasse. Hein. Donc, je reprends. Si on a vraiment, dans cette parole de Matthieu, effectivement, l'expression de l'exigence de rationalité de la pensée, autrement dit de la science, hein, autrement dit, on va dire, de la philosophie, bon, de tout ce qui cherche la vérité, à savoir cette exigence qui consiste à ne rien dire qui ne soit fondé. Je reviens à mes petits-enfants. Ne rien dire qui ne soit fondé sur la réponse à l'ultime pourquoi. Fondé donc sur l'être infini, de qui nous tenons l'être. Voilà. Ce qu'on nous dit, il faudrait que tout ce qu'on fait dans la journée, il faudrait que ce soit dédié à Dieu. Mais je dirais ça autrement. La parole de la petite Sainte Thérèse de Lisieux, à qui une religieuse de son pensionnat demandait à quoi elle, qu'est-ce qu'elle fait de ses temps de loisirs. Elle dit, ah, je pense. Et à quoi vous pensez ? À Dieu, à l'univers, à l'éternel. Enfin, je pense, quoi. Hein ? Eh bien, je peux vous dire qu'elle avait mieux compris ce que c'est que la science que tous nos spécialistes dont je vais parler tout à l'heure, brièvement. Hein, mais... Donc, voilà. Cette parole de Matthieu, donc, elle montre que une science qui n'est pas fondée n'est pas une science. Et une science qui n'est pas fondée, ça veut dire une science qui n'est pas fondée sur le premier fondement. Voilà. Hein, donc, non seulement la pensée, non seulement qui n'est une science qui n'est pas fondée donc sur déjà une compréhension de ce que c'est que penser, si vous voulez, mais aussi fondée sur la lumière par laquelle la pensée peut connaître quelque chose, à savoir, on a vu, l'infini, l'esprit. Il y a un philosophe du début du XXe, Husserl, qui montre bien ça. Il dit, bon, les sciences de la nature, c'est bien joli, mais puisqu'elles ne sont que sciences de la nature, elles ne sont pas sciences de l'esprit, elles ignorent que c'est l'esprit qui pratique des sciences de la nature. Elles ignorent que c'est un esprit qui connaît. Donc, elles ignorent un fondement qui est pourtant incontournable. Hein, mais ce n'est pas leur objet. Bon, on s'enfonce déjà dans la spécialité. Voilà. Seule est donc pleinement science, une science qui est consciente non seulement d'être science, mais consciente de ce qui la fonde. Hein, et c'est pourquoi, alors je vais peut-être aller assez vite ici, de Saint-Augustin à Sainte-Thérèse d'Avila, mais chez plein d'autres auteurs. Saint-Jean de la Croix, tiens, parlons-en, puisque c'est sa fête aujourd'hui, et très très grand auteur, très grand mystique. Eh bien, considérer que la science véritable, elle consiste en quoi? Elle consiste d'abord à se connaître soi-même, c'est-à-dire, hein, puisqu'on peut continuer en disant c'est-à-dire, connaître Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les choses changent? Eh bien, on peut dire que la science du monde, c'est une sorte de distraction de la pensée. Là, je pense à un superbe poème de Victor Hugo qui s'intitule « La conscience » dans « La légende des siècles ». Sauf que Caïn, dans « La légende des siècles », il a beau aller se divertir, d'abord voir le monde, parcourir le monde, etc., construire une citadelle, puis finalement désespérer de s'enfouir dans une tombe, il ne parvient pas à se séparer de cet œil qui le regarde toujours, qui est sa conscience. Ce poème, si vous ne le connaissez pas, il faut vraiment aller le chercher. Il est très, très beau. Et le problème, c'est que à mesure que l'esprit humain s'enfonce dans la connaissance des choses particulières, toujours dans le détail, j'évoquais dans la première partie de mon propos le fait d'approfondir et d'aller dans le plus petit, dans le nano, puis aller de galaxie en galaxie, etc. Eh bien, tout cela est divertissement de la pensée, et plus on s'enfonce dans la multiplication des objets de pensée, et plus on oublie ce qui nous permet de les penser. On s'en détourne. Et de fait, je terminerai là-dessus avant de conclure, si j'ai le temps de conclure. On a envie de dire alors c'est pas une citation, mais c'est un peu tout le thème des conférences de Saint John Henry Newman sur l'idée d'université, lorsqu'il était en charge de créer l'université de Dublin. Hein, il se plaignait qu'on ait plus ni sages ni savants, mais seulement des spécialistes. L'hyperspécialisation, voilà, elle conduit à s'enfoncer vraiment dans l'oubli du fondement, dans l'oubli du principe. Les spécialistes, Newman a un très beau mot pour... Très, très beau. Il n'est pas beau par lui-même, mais il dit bien ce que ça veut dire. Il les appelle des bigots. Voilà. Un spécialiste, c'est des bigots. En gros. Qui ne savent parler de rien d'autre que... Et surtout incapables de s'élever vers les principes. Et alors c'est terrible, parce que... ils tournent le dos à ceux-là même qui rend possible leur activité. C'est ça qui est terrible. Mais j'ai envie de dire bon, que notre science, elle est à l'image de, d'autres choses qui font notre monde d'aujourd'hui. C'est le consumérisme, c'est le tourisme. Une belle parole, je n'ai plus par cœur, mais une belle parole de Chateaubriand nous disent que bon, quand on a besoin d'aller parcourir le monde, c'est qu'on n'a pas, on a pas grand chose à voir en soi, quoi, et on n'y découvre pas plus d'ailleurs, etc. Le tourisme, c'est une invention des Anglais, et alors Théophile Gautier disait aussi à propos des Anglais, les Anglais, de toute façon, ils vont partout dans le monde et partout, ils n'y voient que l'Angleterre. Bon. Je conclue. Donc, petite récapitulation. J'ai le temps encore? Oui, ça va, hein? Il y aura le temps encore pour des... Bon. Parce que si vous aviez des choses prévues, je ne sais pas. Voilà, donc la conscience, c'est bref, donc une brève récapitulation. La conscience, donc, qui est pur esprit, on l'a vu, c'est le lieu de l'infini, et on comprend, hein, le lieu de quelque chose qui la dépasse. Hein, de ce fait, donc, une nature à la fois entièrement engagée dans le monde, mais entièrement étrangère au monde où elle est engagée. Elle est transparence à elle-même, transparence à l'être infini, donc au créateur. Et le créateur, l'être infini, est trinité. Il faut qu'il soit trinité pour qu'on comprenne qu'il s'est transmis. C'est-à-dire qu'une religion qui affirme un monothéisme qui ne serait pas le monothéisme d'une trinité, c'est-à-dire d'un Dieu capable de se transmettre, c'est une religion à des fins strictement politiques. C'est pour dire « attention, si tu ne fais pas ce que moi je te demande, hein, là-haut, le père Fouettard t'en dira des nouvelles. » Voilà. Je suis désolé de dire ça comme ça brutalement, mais... Et voilà, donc ce qui se passe, c'est que notre science du monde ignore, elle est bien fille d'Adam, fille du pécheur, elle ignore volontairement le principe qui la rend possible et la fonde en préférant tout ce qui est rendu possible. Par là. Alors, je tire brièvement une petite conclusion sur cette conscience, une image pour conclure. Voilà, l'infinité divine, Trinité, a fait notre âme conscience, c'est-à-dire réflexivité, c'est-à-dire cette fractale que je vous ai montrée, afin que nous connaissions la Trinité, afin que nous connaissions sa grandeur, son immensité. Bref, elle nous a fait chambre avec vue sur son immensité. Il suffit de se tourner du bon côté. Voilà. C'est encore mieux que chambre avec vue sur la mer, hein. voilà, je vous laisse poser les questions que vous... Oui.
Est-ce que par hasard, ça ne serait pas une sorte de sous-produit de Don Scott ?
Ben à la suite de Don Scott, il va y avoir de toute façon tout s'enraye. Il va y avoir toute cette discussion sur les universaux. Et puis ça va aboutir à si Guillaume d'Occam, le nominalisme. Mais bon, sur les origines, je ne répondrai pas à cette question, parce que bon, je ne suis quand même pas historien de la philosophie. Je ne veux pas dire de bêtises, mais le sens d'universel. Le sens d'universel. Bon, universel, ça veut dire il y a un. Dans le terme universel. Ce qu'on voit, c'est que, pour rejoindre votre question, ce qu'on voit, c'est que dans la laïcité, on parle de l'universalité, et on précise, du genre humain. On considère quoi ? Et ce serait vraiment une toute autre question et qui mériterait un long développement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on traite de ce que les êtres humains ont en commun et abstraction faite de leurs différences. Alors il y a une manière très simple de faire abstraction des différences. Auparavant, il y avait la violence. Maintenant, on tolère tout. C'est la tolérance. Qui n'est pas mieux. Hein, mais voilà, c'est exactement comme je ne sais pas si je m'exprime peut-être pas très clairement, exactement comme dans cette ontologie qui nous sort de Don Scott et qui s'est développée, enfin bon, j'ai simplement donné schématiquement à peu près le résultat où on en est. Donc l'être comme être commun à toutes les choses qui sont abstraction faite de leur différence, eh bien l'universalité du genre humain obéit à cette même logique. C'est-à-dire, bon, voilà, tous les êtres humains sont bons à mettre dans le même sac. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Qu'est-ce qu'on dit qu'ils ont en commun ? Comme on ne veut pas trop parler de l'âme, de la conscience, etc., ben ils ont en commun d'être tous issus de Lucie, là, vous savez, d'être des animaux. Hein, d'être des animaux, voilà. Ce qu'ils ont en commun, c'est la constitution matérielle, biologique, hein, et supposée venir de... Bon, je ne sais pas, moi, si... Je ne vais pas me lancer dans ces débats, mais c'est vraiment ce concept d'universel aujourd'hui, c'est le rasoir. C'est le rasoir qui gomme toute différence. Or, c'est encore bon, un coup de génie, on va dire, du christianisme, c'est que l'universel qu'est le principe que l'être infini, hein, il est la singularité de toute singularité. Il est la singularité de toute singularité. Et franchement, pour bien comprendre le rapport entre l'universel et le singulier pris dans son intégrité, hein, eh bien, il faudrait faire un grand saut depuis aujourd'hui. En passant sur tout, la plupart des choses qui se sont écrites entre-temps, et revenir à saint Thomas d'Aquin, qui est vraiment le grand penseur de cette singularité universelle. Hein. L'universel, ça veut dire un, Dieu est un, le principe est un, l'être qui est à l'origine de tout ce qui est un, et il est l'unité de toute unité. Voilà. Donc, ce qui fait que la personne, sans doute, il n'y a que le christianisme qui l'assume complètement, la notion de personne. Enfin, je ne sais pas si j'ai été clair. Non. Ben dans, si vous voulez, dans son infinité, l'être infini connaît personnellement, si vous voulez, dans sa singularité, chaque être fini qu'il crée. Et ça, je passe peut-être de la philosophie à la théologie. Toute personne, ce qu'on dit, c'est que toute personne, toute âme, hein, est décidée dans l'éternité avant même qu'elle naisse, est connue pour ce qu'elle est. Ce qui n'engendre pas un déterminisme, ce qui n'a absolument aucune incidence sur la liberté, puisque la préscience divine, ce n'est pas un destin, ce n'est pas une prédétermination. Je ne sais pas si je réponds à la question que vous vous posez. Tout à fait, oui. Mais c'est ce à quoi conduit cette compréhension qu'aujourd'hui on a de l'universel. Plus dire l'universel républicain, comme vous avez dit. L'universel républicain, bon, la République n'a rien d'universel, parce que, autant que je sache, il n'y a pas que des républiques, il n'y a pas eu que des républiques dans le monde. Et peut-être un jour n'y en aura-t-il plus. Et effectivement, mais bon, c'est, aujourd'hui, vous avez raison de dire, bon, on est dans un monde, on est vraiment tout à fait dans des problèmes autres, mais on est dans un monde à la fois profondément collectiviste et profondément individualiste. Et ça va ensemble. Ce ne sont que les deux faces d'une seule et même réalité. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est un monde qui est dominé par l'extériorité. Hein. Je parlais de tourisme, de la science qui n'est science que de choses sans savoir ce que ça veut dire science, etc. Je parlais de consumérisme. L'individualisme et collectivisme, c'est l'empire de l'extériorité. Voilà. Il y a une belle parole de Bernanos qui dit la chose suivante, c'est dans un beau texte, « La France contre les robots ». Et Bernanos nous dit « On ne comprend rien à la modernité si on ne comprend pas que c'est une conspiration contre l'intériorité ». Superbe. Et alors, collectivisme, individualisme, eh bien, on est dans le règne de l'extériorité, c'est-à-dire qu'à la fois on copie des modèles qui nous sont donnés par la société, société environnante, etc., pour se singulariser. Alors, les cheveux de toutes couleurs, etc. Bon, j'en passe des meilleurs. Hein. Voilà. Et l'individualisme, ça n'a rien à voir avec une reconquête de soi, de ce qu'on est soi-même. Hein. Tout à l'heure, je n'ai peut-être pas suffisamment insisté, mais on est vraiment, je disais, à propos de l'humilité, on est vraiment soi-même quand on, à l'intérieur de soi, on se confronte à cette immensité qui nous traverse et qui nous dit, qui fait qu'on n'est plus dans la joie de son petit ego, mais dans la joie de cette immensité. Et là, on n'a pas à s'occuper du voisin, peut-être prier pour lui pour qu'il connaisse cette même joie. Alors, je crois que l'universalité, puisque c'est à partir de ce terme que vous avez rebondi, la compréhension est de ce terme aujourd'hui est toute complètement faussée, parce que quand on parle d'universalité au sens laïque, eh bien, c'est justement cette universalité de l'extérieur. Tous les hommes sont des animaux, et même les animaux sont des hommes comme les autres, hein, etc. Bon, on est dans la confusion. Mais... C'est des choses qu'on entend. Hein. Oui. Bah oui, mais pour nous aussi. Les enfants, ils sont... Du fait de ces dispositions dont je parlais tout à l'heure, ils auraient bien des ressources pour pouvoir sortir de ça. Hein, mais évidemment, on est tellement pressé d'en faire des adultes que... Bravo, vous savez, je suis retraité de l'enseignement et vraiment heureux d'en être sorti. Pour... moult raisons, mais je veux dire pour la principale raison que même en philo ou en même cette matière qui était quand même relativement préservée, il n'y avait pas de ligne directrice imposée pour qu'on dise ceci et pas cela. Néanmoins, quand on sait qu'on conduit des élèves à un examen et qu'ils vont être lus par une majorité de gens qui sont dans la bien-pensance, hein, ce qu'il y a, eh bien, on ne les met pas en danger. Et donc, on essaie de leur apprendre à bien dire ce qui va être attendu d'eux. Hein, voilà. Donc, moi, je considère que je suis sorti du ministère de la domestication nationale. Voilà. Non, mais c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. À partir du moment où l'homme est pécheur, c'est-à-dire se détourne de ce qui est au cœur de soi, on va dans le mauvais sens. Hein. Ceci étant dit, on peut quand même marquer quelques différences. Si je pense au monde intellectuel. Je ne suis pas historien des populations, mais si on pense au monde intellectuel, puisque j'ai évoqué Bossuet, pour terminer, excusez-moi, ça sera plus joli. J'ai évoqué Bossuet. Bon. Il y a un moment quand même très, très puissant de pensée qui va donc des pères de l'Église et tout particulièrement de saint Augustin jusqu'à saint Thomas d'Aquin. Hein, où tous ont lu saint Augustin. Saint Thomas d'Aquin, c'est un grand augustinien et qui l'a fait fructifier. C'est formidable. Bon. Et puis, moi, je suis désolé, je fais un petit peu d'histoire. Se crée à ce moment-là la Sorbonne. Qui fait connaître Aristote, et on sait quel bel usage saint Thomas d'Aquin a fait d'Aristote. Hein, comme Chesterton dit, saint Thomas d'Aquin, il a baptisé Aristote. Est-ce que certainement très juste. Voilà. Et puis, à la mort de saint Thomas d'Aquin, arrive donc ce moment terrible. Où à la Sorbonne, on commence à émettre l'idée qu'il y aurait une vérité de raison et une vérité de foi. Qu'il y aurait deux vérités. Bon. Ce à quoi l'évêque Étienne Tempier a réagi, il a donc publié une condamnation, mais enfin bon, ça, rien n'y est fait, ça n'a pas empêché ensuite, et John Scott et plein d'autres de suivre un petit peu cette voie de la double vérité. Voilà. Donc cette double vérité, elle va nous poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui se passe, je reviens à Bossuet, ce qui se passe dans le monde intellectuel, c'est que pendant quelques siècles, il y aura encore quelques auteurs assez qui n'ignorent pas la science de leur temps, mais assez imperméables, et qui continuent à bien lire les auteurs de Saint-Augustin à Saint-Thomas d'Aquin, et qui, chez Bossuet, une solidité, une fermeté de la pensée qui est assez extraordinaire. Sauf que, peu à peu, ça va se perdre. C'est un contemporain des contemporains de Bossuet, bon, pensons à Descartes, Pascal, Pascal, c'est pas... Pas toujours très orthodoxe chez lui, donc il s'est fait quand même lui aussi le continuateur de cette ontologie. C'est bien plus simple, il laisse tomber l'être, on peut pas le définir. Voilà. Et puis on arrive à notre époque où la pensée a fini par se fourvoyer dans cette opposition et est devenue elle-même, enfin la pensée, on arrive à cette idée que la pensée ne peut pas penser. Vous voyez, des constructions intellectuelles pour faire la promotion d'un anti-intellectualisme. La pensée ne peut pas penser, est impuissante à penser, etc. Alors, évidemment, ça conduit à une sorte de mépris, et à juste titre, de mépris des populations pour la pensée, ce qui compte, c'est les actes, etc. On sait bien que les actes sont tout aussi hypocrites que les paroles, que les pensées. On peut agir pour faire montre d'eux et en n'en pensant pas moins par de vers soi. Les actes sont pas meilleurs que les pensées. Mais voilà, on est dans une... Et la conséquence de ça, si vous voulez, c'est que quand on agit, eh bien, puisqu'on a un mépris pour la pensée, donc on ne cherche plus à penser avant d'agir, c'est-à-dire à savoir ce qu'on fait. Bon, alors je pense qu'il y a quand même... je dirais quand même il y a des époques plus heureuses ou moins malheureuses que d'autres. Je crois que le XIIIe siècle qui a quand même enfanté... Alors auparavant, il y a eu des choses difficiles, puisque XIIe siècle, que ce soit Hildegarde, Demingen ou Saint-François d'Assise ont eu vraiment à se battre contre... contre des dérives, etc. Et puis le XIIIe siècle, je vois quand même de grands noms, Saint Albert le Grand, Saint Bonaventure, Saint Thomas d'Aquin, et vraiment, on a vraiment un siècle extraordinaire, solide, jusqu'à 1277, date de la condamnation d'Étienne Tempier. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas noyé dans... tout ça, mais voilà, l'homme depuis Adam, il est pêcheur, et bon, c'est dur pour lui de pas préférer la facilité au retour sur soi, et la tentation est toujours là, et il y a des périodes où elle était beaucoup plus forte que d'autres, et puis mais il y a des moments où il y avait quelques directeurs de conscience qui avaient un certain poids. Voilà. Je sais pas si peut-être il est temps. C'est moi qui vous remercie de votre patience et de votre attention. On ne mérite pas tant.